Mathieu Brosso, bonjour. Vous êtes écrivain, poète, romancier, bibliothécaire aussi. Vous avez écrit des recueils de poésie tels que Aquatone, Surface, La nuit d'un seul, Un, Ici dans ça, L'animal central, ce sont quelques recueils de poésie entre autres, parmi d'autres. Vous avez écrit aussi des romans, deux romans, Data Transport et ce dernier roman qui s'intitule Chaos, qui vient de paraître. Est-ce que vous pourriez, Mathieu Brosso, nous faire une petite présentation? Alors c'est l'histoire de Chaos, donc en tant que roman et récit. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de l'histoire de cette femme que vous avez appelée la folle, qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique et qui va sortir à l'aide d'un autre personnage qui s'appelle l'interne de cet hôpital pour aller à la rencontre de sa sœur jumelle. Est-ce que vous pourriez justement nous faire une petite présentation de ce récit ?
Alors, une présentation extrêmement simple, parce que l'histoire est d'une immense simplicité. C'est donc l'histoire d'une jeune femme, 27 ans, qui est internée dans un hôpital de Dingo, comme il est dit dans le roman, pour des raisons assez obscures, et qui a une sœur jumelle qui habite dans une autre ville. Et un interne se prend d'affection pour elle. Affection, je ne sais pas. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui se passe au début entre eux. On verra ensuite qu'il peut y avoir un peu de désir. Néanmoins, il va l'aider. Enfin, cet interne va aider cette folle à sortir de ce même hôpital et pour retrouver sa sœur jumelle. Et donc là, s'élabore un grand périple de l'une à l'autre, et toute la question des retrouvailles et du comment et du pourquoi se pose.
D'où naît ce livre ? Qu'est-ce qui en est à l'origine, justement ? Quelle était cette interrogation ou ces interrogations qui vous ont amené justement à ce récit et puis cette écriture, ce foisonnement aussi qu'on retrouve dans l'écriture ?
Il y a plusieurs questions en une seule, mais non, voilà. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord effectivement une question que je me posais sur la communauté, sur la multiplicité, sur la division, sur les divisions même cellulaires, sur plus d'ailleurs davantage sur cela que sur ce que l'on peut penser trivialement comme étant du chaos, à savoir du bordel. La question n'est pas là. La question est davantage dans la multiplicité. Et j'ajoute aussi un point qui, moi, me plaisait beaucoup, et d'ailleurs c'est en exergue du roman, c'est une petite citation de David Garnett qui écrit « La femme changée en renard » et qui est « Les choses surnaturelles ne sont pas si rares, c'est juste qu'elles arrivent dans le désordre. Donc c'est un désordre qui n'est pas cacophonique, c'est plutôt un désordre en cela qu'il est, il est la possibilité de la surprise. C'est-à-dire que finalement, trop d'ordre, un temps, des événements qui se procéderaient les uns après les autres sans surprise et dans un ordre et dans une causalité très attendue, ne sont absolument pas surnaturels. Et précisément, le désordre, le chaos, serait cette possibilité de l'inattendu. Et une sœur retrouvant sa sœur, et comment d'ailleurs, c'est là l'inattendu. C'est qu'est-ce que ces retrouvailles, comment va-t-elle être ? Qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est possible ? Et est-ce qu'elle est attendue ou non ?
Comment s'écrit justement un livre, un tel livre, et comment vous envisagez justement la littérature dans ce... on ne peut pas s'imaginer qu'elle ne soit pas vécue.
Ah non, mais de toute façon, très clairement, je n'envisage pas du tout la littérature comme, comme chose non vécue ou qui pourrait ne pas être, ne pas l'être. Écrire, c'est forcément pénétrer de façon très musicale le cours d'une pensée, le cours d'un désir. Et écrire au nom d'un personnage, c'est bien évidemment rentrer dans le personnage et l'être profondément, à la fois en ce qu'il est et surtout en ce qu'il dit. Et donc vous constaterez que à l'intérieur du roman, il y a des passages plus narratifs qui sont peut-être plus, plus admis, plus communs. Et en même temps, ils donnent le cadre. Ils donnent le cadre du roman, ils sont nécessaires. Et à l'intérieur de ce cadre, j'ai intégré en fait des pensées. J'ai essayé de travailler ce qu'on appelle la transparence intérieure, à savoir la transcription des pensées. Comment finalement transcrire sur une page, dans un roman, une pensée? En effet, si je prenais un dictaphone et que je mettais et que je tentais un dictaphone magique et que je le mettais dans votre tête et que j'enregistrais toutes vos pensées, bien entendu, vous sauteriez du coq à l'âne, vous ne finiriez pas vos phrases, il y aurait des ruptures constantes. Si j'éteignais mon dictaphone et qu'ensuite je recopiais tout bêtement tout ce que je venais d'enregistrer, ce serait très probablement illisible. Et on serait assez proche du poème, non pas parce que c'est illisible, mais plutôt parce que j'aurais capté à ce moment-là le cours même d'une pensée. Et d'ailleurs, la poésie, c'est une pensée habitée. C'est une phrase qui ne dit pas quelque chose et qui ne décrit pas quelque chose qui est extérieur, mais qui décrit la chose qui est en train de se faire, d'une pensée qui est en train de se faire. C'est vraiment un mouvement profond. Et c'est d'ailleurs en cela que c'est de la musique. C'est exactement de la musique. C'est un mouvement musical. Pour revenir à cette histoire de transparence intérieure et de pensée, moi j'ai voulu dans Chaos travailler un peu ces pensées. Mon intention, c'était pas du tout de les rendre illisibles comme elles peuvent l'être naturellement. Et donc je les ai travaillées. Alors je les ai pas travaillées jusqu'à trop mentir, jusqu'à en faire des longues phrases très structurées, comme d'ailleurs pouvait le faire Virginia Woolf, qui a énormément travaillé aussi cette dimension-là, en littérature de la pensée. Non, j'ai voulu conserver ces incongruités, ces ruptures, mais tout en gardant un sens profond, et parfois en utilisant le millefeuille, c'est-à-dire des pensées qui se superposent, et... C'est assez jouissif parce que on s'aperçoit que la pensée est profondément riche, profondément contradictoire, parfois dit deux choses inverses en même temps, et c'est assez délicieux. Et ça crée une dynamique. Et après, évidemment, il y a au moment même où je les écris, j'ai pu écrire ces pensées, au moment même où je les travaillais, il y a l'utilisation de techniques aussi, hein, toutes bêtes, qui permettent de musicaliser et de rendre donc agréable à la lecture, comme on pourrait travailler un poème, ces mêmes pensées. Donc voilà, structurellement, vous avez un cadre qui est assez narratif, qui est vraiment tout bête, et à l'intérieur duquel je vais injecter, comme ça, des pensées qui vont aussi dire des choses de l'histoire, et d'ailleurs qui vont faire avancer l'histoire.
D'où le personnage de la folle, qui est le personnage central, mais qui, à travers peut-être le mode de pensée qu'elle porte et qu'elle amène, on le retrouve chez les autres personnages.
C'est vraiment une question extrêmement intéressante et qui était le... je me la suis tout de suite posée. Quand vous lisez du Virginia Woolf, justement, hein, qui est justement un des écrivains qui a beaucoup travaillé cette question-là de la pensée, vous verrez que tous les codes sociaux sont respectés, et même tous les préjugés sociaux. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, le notable ne pourra pas avoir des pensées trop triviales chez Virginia Woolf. Par contre, l'ouvrier, oui, il pourra. Alors, ce sera toujours chez Virginia Woolf, même les pensées triviales seront assez jolies. Néanmoins, lui, il pourra avoir des désirs, il pourra avoir des pensées un peu transgressives, etc. Alors que le notable, non. Et évidemment, ça me paraissait être d'une fausseté totale. Et j'avais plutôt l'impression qu'on était tous pareils de ce point de vue. Et que le médecin de ville, comme n'importe qui, que le facteur, que le machin, que l'érudit comme celui qui n'a pas de lettres, finalement était structuré à peu près de la même façon. Et que d'ailleurs, c'est cette même structure qui nous permet de communiquer. Et donc voilà, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'est cher, c'est que j'ai structuré donc de la même façon tous les discours de tous les personnages. Néanmoins, ils avaient quand même une logique propre, même si les structures étaient très proches. Ils avaient, chaque personnage a sa logique propre. Et en revanche, plus on va dans le roman, plus on va justement vers la rencontre, vers la retrouvaille entre les deux sœurs, et plus j'ai joué sur un rapprochement, voire une fusion aussi de ces modalités de pensée, de ces modes de pensée, et par capillarité, tout se mélange, y compris d'ailleurs dans mon propre propos d'écrivain. C'est-à-dire que les parties assez narratives, qui au début sont plus admises, plus faciles, eh bien, petit à petit se confondent avec tous les autres propos qui peuvent être du discours, de la parole, de l'oralité. Tout va se mélanger dans un final que je ne raconterai pas, mais qui va être assez le bouquet final du feu d'artifice, quoi.
Est-ce que vous pourriez... Alors, cette figure de l'interne, malgré tout, a une place vraiment particulière dans cette pensée. L'interne, je le rappelle, dans cette histoire, celui qui travaille dans l'hôpital psychiatrique et qui se prend d'amitié, et voire plus, avec ce personnage de la folle. Est-ce que, finalement, cet interne-là, c'est ce rôle aussi d'aller chercher dans la pensée chaotique, magmatique, qui est la nôtre de tous les jours, cette capacité à la ramener à quelque chose qui est de l'ordre du langage, de la mise en mots et de la possibilité de la transmettre aux autres, d'une certaine manière.
Alors, si la question, c'est la fonction de l'interne...
L'interne au sens aussi de l'intériorité, d'aller à l'intérieur de soi.
Effectivement, non mais oui, effectivement, d'ailleurs, c'est très bien vu, il y a un vrai ambivalence, il y a un vrai jeu de mots là, entre l'interne et l'interne en médecine, et l'interne en cela que c'est quelque chose d'intérieur. Puisque le roman joue, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, joue toujours sur ce qui est de l'ordre du dedans et ce qui est de l'ordre du dehors. L'idée pour l'interne, c'est que ça va être une sorte de révélateur de ce qu'est vraiment la folle. C'est un petit peu un pied de nez, parce que ce personnage de la folle, je le nomme par une fonction, qui est celle qui habite un hôpital psychiatrique, et qui est folle. Donc ce devrait être quelque chose d'indiscutable. Néanmoins, tout en lisant du livre, par le fait même du regard de l'interne portée sur cette dite folle, on s'aperçoit que c'est en fait elle qui porte la vérité de tout ce qui va se produire. Et donc, c'est autour de cette contradiction-là que les choses se jouent. Et donc, l'interne, lui, a cette fonction-là de révélateur quasi photographique. Hein. Il va mettre en lumière la vérité de ce personnage.
J'avais une question toute simple. En quoi... ce roman, enfin ce récit résonne-t-il avec l'époque dans laquelle nous sommes? Est-ce que tout écrivain se situe dans une situation sociale, historique? Est-ce que vous avez peut-être un regard justement sur l'époque dans laquelle on est, dont on se situe, alors d'un point de vue littéraire et puis après peut-être aussi d'un point de vue plus général?
Alors, je vais répondre surtout sur le point de vue plus général. Je crois qu'on peut vraiment avoir une écoute politique du livre. En cela, qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours agressé, c'est ce désir de collection, qui rime assez fort avec le capitalisme aigu, la collectionnite aiguë, alors, qui évidemment est un désir de propriété, qui est un désir de quasi muséographique d'ailleurs, hein, où on va collectionner, comme en bibliothèque d'ailleurs, on va collectionner tout un tas de richesses qui vont peu ou pas bouger. C'est presque comme une... ce désir serait comme, vu par moi en tous les cas, serait comme une sorte de parvent contre la mort, une sorte de volonté de s'approprier les choses pour ne pas totalement disparaître, pour pouvoir marquer l'histoire. Et il me semble que le capitalisme aigu, la libre circulation et compagnie est assez ambivalente, parce qu'à la fois, effectivement, on entend dans libre circulation des choses qui ne cessent de bouger, et en même temps, tout cela repose sur, et d'ailleurs, le terme capitalisme le dit, sur l'idée de capital, de choses qui ne bougent pas, de choses qui sont collectionnées, de choses qui sont totalement minéralisées, qui sont... Et là-dedans, il y a quelque chose, pour moi, de contre-naturel. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois profondément, philosophiquement, ontologiquement, que les choses ne cessent de bouger, ne cessent d'être en mouvement. Et qu'il est totalement faux de croire que l'on puisse capitaliser quoi que ce soit. Alors, votre question, c'est comment s'inscrit le roman dans notre époque ? Je crois que...
Ou résonne. Comment résonne-t-il ?
Moi, je crois qu'il est arrivé aussi un moment où j'ai pu me sentir agressé par cette idée, à mon avis, fausse du capital, dans ce qu'il a de plus... dégueulasse.
D'ailleurs, juste, il y a un personnage qui correspond à ce dont vous parlez, qui est en même temps vendeur d'armes et marchand d'art.
Oui, bah oui, oui, oui. Oui. Après, je crois qu'il y a aussi derrière ça une critique de mon propre métier, hein, bibliothécaire. Mais oui, effectivement, il y a un personnage qui est Il Padrino, c'est le parrain, c'est le type un peu dégueulasse qui vend des armes à des pays en guerre, et de l'argent qu'il récupère, il va faire construire des musées, acheter des œuvres, bref, pour promouvoir une culture dite occidentale. Et en fait, dans la collection même, et la collection de l'art, il y a toujours quelque chose qui me gêne. Et d'ailleurs, c'est sans doute pourquoi j'aime énormément le street art. C'est qu'il y a dans l'idée même de l'éphémère quelque chose de tellement vrai, de tellement proche du mouvement même de la pensée. Il m'est arrivé de travailler comme ça avec des street artistes où j'écrivais des phrases, il les taguait, c'est des beaux graphes, hein, magnifiques, et puis j'allais boire un café, je revenais, et ça avait déjà disparu. Et voilà, dans l'idée même de disparition, de choses qui ne cessent de disparaître, il y a quelque chose qui, selon moi, colle à une vérité profonde de notre existence, à savoir le mouvement et donc la disparition. La nature, au fond, n'a pas de mémoire, et nous, sans doute pour lutter contre la peur de la mort, nous ne cessons de construire, de vouloir construire, une collection de mémoires. À l'instant, je parlais de capital. Je parlais de l'avoir. Chesterton dit quelque chose d'absolument magnifique, qui est le fou est celui qui a tout perdu. Sauf la raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que justement, le fou, ce serait quelqu'un qui se serait comme décapitalisé, qui aurait perdu l'idée même de cette possibilité d'avoir. et donc qui naviguerait en plein mouvement. Voilà l'idée même de Chesterton et qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché. Et je crois que ce personnage de la folle, dite de la folle, en fait, est précisément celle qui a tout perdu, sauf la raison. Et donc, bien évidemment, au début du roman, elle est appelée la folle. Donc, on croit de facto qu'elle l'est. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Ça, nous-mêmes, on ne le sait pas bien, ou on a tout un tas de préjugés. Et l'idée, pour moi, c'était d'un peu de... sans que le lecteur s'en aperçoive, bien sûr, c'était de déconstruire ce préjugé. En réalité, cette folle ne l'est pas du tout. C'est juste qu'elle est totalement libre. Or, nous n'avons, nous, pas du tout l'habitude de penser la liberté en ce sens-là. Donc, on la caractérise, on la nomme comme étant folle.
Ce roman donc, s'intitule « Chaos ». Donc cette question de l'altérité, c'est un point de vue presque ontologique, une réflexion philosophique. En fait, je dis ça parce qu'il y a en exergue de ce roman, notamment une citation d'Ovide, justement, sur le chaos, sur l'origine d'une certaine manière et comment les éléments se dissocient les uns des autres pour devenir la terre, le ciel, le feu, l'air. Est-ce que, justement, vous pourriez nous développer cette relation entre le titre « Chaos », tout simplement, et cette citation d'Ovide ?
De toute façon, chaos est le dieu premier et matriciel, c'est la mère du monde. Et tout à l'heure, je parlais de division cellulaire. On peut bien, en regardant d'ailleurs les frises généalogiques des divinités grecques et romaines, voir qu'il y a une sorte de division et que toute généalogie est une division. Et que le chaos, dans son unité, dans sa, en cela qu'il est une matrice, est à la fois unique et précède toutes les fissions à venir. Voilà. Et le chaos est ici, dans ce roman, figuré comme une masse spongieuse habitant le ciel en plein zénith et qui serait finalement comme la condition et le support de tout ce qui peut communiquer ou permettre la communication entre deux êtres. Voilà. Et le chaos vu ainsi serait supérieur à nous, serait et nous permettrait d'exister en communauté et donc nous diviserait logiquement, mais peut-être aussi nous permettrait, en se rapprochant de lui, de ce même chaos, de se retrouver. Regarde, je les vois tous dans l'espace noir, les imagine, par-delà. Regarde, ferme les yeux, laisse-toi aller, regarde. Vois un ventre dans un ventre, lui-même dans un ventre, qui est aussi dans un ventre, là encore dans un ventre, et ainsi de suite. Belle image étendue de poupée russe, enceinte, encastrée, et puis dans certains ventres, un ventre vide, dans d'autres, des monozygotes, 1000 ventres flanqués de 1000, 10 000 jumeaux, 100 000 ventres flanqués d'un million de faux jumeaux, certains eux-mêmes en gestation, d'autres non, ou plus, ou pas encore. Ceux qui ne sont plus en gestation sont morts, dit-on, revivent parfois, puis s'éteignent à nouveau, flétrissent comme les plantes annuelles. On voit des mondes se développer, entrer, sortir. Non des étoiles, ces ventres, mais des univers. Poches qui enflent, poupées les unes aux autres imbriquées, et leur nombre, autant que leur schéma logique, échappe à la raison. Seul point commun, seule condition de vie, ce à quoi on reconnaît ces ventres, infimes ou gigantesques, qu'importe, c'est qu'ils contiennent tous, dans leur hauteur ou leur sommet, une sorte de galette rougeâtre et spongieuse, telle une gélatine sableuse hyper-vascularisée, oui, remplissant les mêmes fonctions qu'à plein sata, la communication entre l'extérieur et l'intérieur de la poche, ce ventre, va-et-vient grouillant, flux libre, échange. La folle joue avec la langue, s'exprime presque de la même façon qu'en pensée, ça coule, syntaxe claire malgré l'hermétisme anguleux de son discours, parfois désordonné. Là est toute la force et l'autorité de sa voix, l'aplomb de sa conscience. Elle hésite peu, sinon par quelque effet de son humeur, ce pouls du ton, la mesure de sa musique. Sa rêverie s'arrête. La roue libre de son esprit, qui ne connaît ni frottement ni aspérité, s'écharpe et s'abrutit au contact du réel, mais pas tout à fait. Elle se réveille et ouvre un œil, pose sa main, la droite peut-être, entre ses seins jeunes et fermes. Elle n'a que 27 ans. La pulpe de son index tournoie doucement, sensuellement presque, autour de la zone sensible sur le mitant des côtes, où elle se caresse. Certains pourraient y voir de l'érotisme, alors qu'elle, elle verse une larme, à l'endroit même de son doigt travaillant la peau et les nerfs, entre inspiration et expiration, au nœud même du plexus solaire et au-dessus. Soudain, elle se lève, fait quelques pas, agite sa tête comme un chien s'ébroue, s'étire et se tortille, et très puissamment elle se projette, avec tout le poids de son corps, contre la porte de sa chambre. Une porte légèrement spongieuse, semble-t-il, avalant un peu la tête, une porte molle. Un bruit sourd se fait entendre, malgré tout. Un bruit contenu, intérieur, bris étouffé. Elle s'effondre, le front net sur le sol, une large bosse écarlate et dure émerge quelques centimètres au-dessus de ses yeux. Dans la violence de l'impact, elle a dû craquer le cartilage de son nez, car du sang coule généreusement, forme un halo splendide et pictural tout autour de sa tête étalée sur le plancher. Un halo tel ce dessin, un halo comme une mousse. Mais peut-être est-ce la porte elle-même qui a saigné. Elle reste là, gisant à terre, inerte, chose seule, ne plus, folle. Dans un coin de la chambre, du robinet d'un lavabo, coule goutte à goutte, et depuis longtemps, un liquide épais, violet, tacheté de paillettes brunes, comme si l'hygiène gluante des cieux bouillonnants venait se concentrer et baver là, depuis le mitigeur. Tu vois ?